One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, on est toujours en décembre et ça recommence. Salut Ariane, salut Ghislain.
Bonjour, salut Philippe.
Et on retrouve Camille pour la troisième semaine. Elle est à nouveau avec nous, enfin de façon virtuelle, mais bon, on sent bien sa présence quand même. Et on l'écoute tout de suite. On continue sur le volet militance.
Associative, ouais.
Associative, et elle nous parle carrément de, ben, finalement, de ce qu'elle a créé, elle. Et de comment...
Bah toute seule quand même.
Pas toute seule.
Bah non, pas toute seule.
Mais elle est à l'origine quand même.
Bah oui, mais c'est une histoire
collective. Faut être ensemble. Pour créer, tu comprends.
Non, c'est dit trois.
C'est magnifique. Au moins deux, donc trois, voire plus. On écoute Camille.
Bah, il s'agit d'une association qui s'appelle Le Geste, donc groupe d'études sur la transidentité, qui est une espèce de petit groupuscule d'agités du bocal, avec quelques personnes qui se sont dit à un moment donné, bon, qu'il y ait des gens qui, de ce microcosme autour de la transidentité, aillent battre le pavé dans la rue en réclamant leurs droits, etc. Très bien. Moi, personnellement, je suis assez frileuse, donc marcher dans la rue pendant des heures avec des pancartes, c'est pas ma manière de m'exprimer. Donc, je me suis dit, il y a d'autres choses à faire aussi, surtout qu'on est vraiment un microcosme, et que donc, avant que nos mouvements prennent l'ampleur que prennent les gay pride, il y en a encore pour quelques millénaires. Comme on est assez pressé. Et donc nous, notre mode d'expression privilégié, ça a été de dire, servons-nous des leviers qui existent pour que notre parole, si minoritaire et infime soit-elle, puisse être réappropriée par des groupes existants et portée donc par des choses qui sont mieux structurées, plus nombreuses, plus diffuses sur le territoire, etc.
Et ce « nous », c'est le geste ou c'est des choses qui avaient préexisté?
C'est vraiment le geste.
Hein. D'accord.
C'est vraiment un groupuscule. Et donc, du coup, en fait, alors il y a eu des opportunités après. Il y a eu notamment le planning familial. C'est une vieille dame, le planning familial, pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié et de respect. D'autant que dans les gens qui sont vraiment à la pointe de la réflexion au niveau du planning, toutes les questions d'assignation genrée, alors c'est peut-être des gros mots hein, pour la radio, peut-être qu'il faudra...
Pas pour notre émission, il n'y a pas de problème.
Toutes ces questions-là sont des questions éminemment importantes, puisque s'inscrivent dans toute la problématique de l'inégalité entre les hommes et les femmes,
et les violences sexistes, etc.
Alors, on le rappelle quand même brièvement, Camille, elle est conseillère municipale dans la commune de Selles, transsexuelle, et donc, en quelle année elle a créé son association?
Le geste, je ne sais pas, j'ai pas regardé,
ouais.
Je me suis pas posé la question, ça me...
D'accord. Non, mais c'est juste pour le resituer, en fait, elle crée ça après quand même un certain nombre d'années de militance plus conventionnelle, on va dire.
Je saurais pas te dire, parce que tu as entendu tous les sons, je ne sais pas plus de choses à ce propos-là que toi-même.
D'accord.
Et puisqu'on n'a pas parlé de ça hors micro... Voilà, non, si... non, je n'en sais pas plus que ce que tu as entendu dans les sons, en fait.
Ok. Par contre, donc, y a un lien avec le planning familial, ce que j'ignorais complètement. On va l'écouter par la suite. Mais le planning familial, en tous les cas, l'antenne de l'Héro, s'intéresse à la transidentité. Tu sais pourquoi ? Tu sais d'où ça vient ?
Ça vient beaucoup d'elle. Puisque donc moi j'avais déjà donc dans une vie professionnelle antérieure, je bossais dans une association d'éducation populaire et j'avais vu passer des invitations à formation pour le personnel pédagogique et pas seulement d'ailleurs sur des questions de genre. Et moi ça m'avait vachement inquiétée en fait. Je me suis dit oh là là, mais qui fait ça? Parce que moi je me souvenais de l'intervention du planning familial quand j'étais en troisième, tu vois, pour l'éducation sexuelle, et c'était terrifiant quoi, c'était horrible. Et bah voilà, elle y a été vraiment dans cette structure, elle a été élue, on l'entendra un petit peu plus tard. Et donc oui, il y a des gens qui peuvent être terrifiants, mais il y a aussi des gens super avec qui elle a fait des choses, voilà. Et donc les formations que j'avais vues passer il y a quelques années, elle y intervient. Donc c'est comme dans plein d'autres espaces collectifs, les sujets auxquels on s'intéresse sont aussi les sujets que les participants amènent avec eux, quoi.
Et donc dans cette structure, le geste, bah, y a un volet formation justement, on écoute ça.
Alors quand je dis groupuscule, c'est qu'à la base il y avait trois personnes. Ces trois personnes en avaient des cheminements extrêmement différents, mais quand même avec des ressemblances, avec des points communs, on va dire, et qu'il se trouve qu'on est devenus des amis, on a fait des parcours de transition à peu près en même temps, encore une fois de manière différente, mais à peu près en même temps. Donc on a confronté nos avis, comme on est devenus des amis, on se voyait souvent ici, parce que c'est un lieu, comme tu l'as remarqué, qui est beau, donc on aime bien s'y retrouver avec les amis. Voilà, à force de réfléchir, d'échanger, de s'engueuler, en disant « mais moi je vois pas du tout les choses de la même manière que toi », on s'est dit « mais tiens, on pourrait essayer de se servir de notre énergie, là, ensemble, pour faire de l'information sur la transidentité ». Que les gens connaissent un petit peu mieux de quoi il s'agit. Donc on va essayer de mettre des mots qui ne soient pas, encore une fois, des mots dans la revendication, mais juste pour expliquer ce que peuvent vivre ces personnes. Et puis ces mots, on va faire en sorte qu'ils s'adressent à différents publics, parce que ce qu'on va dire à une classe, tu parlais par exemple de classe, ce qu'on va dire à des jeunes dans un lycée, ça ne va pas être la même chose que ce qu'on va dire à un employeur, ça ne va pas être la même chose que ce qu'on va dire aux parents des jeunes dans ce lycée, et ça ne va pas être la même chose que ce qu'on va dire à des travailleurs sociaux, par exemple, qui vont accueillir des jeunes du lycée. Donc, on a essayé de faire des discours ciblés, et donc de faire une politique d'information ciblée en fonction du public. Donc ça, c'est un premier grand volet, c'est de l'information. Et puis la deuxième chose, c'est dit, on va essayer de pousser un peu plus loin et faire de la formation. Alors, la formation informative, bien évidemment. On n'est pas là pour apprendre à des travailleurs sociaux leur métier, on n'est pas là pour apprendre à des infirmières leur métier, etc., etc. Mais par contre, on est là pour leur apporter un niveau d'information suffisant pour que dans le métier, ils puissent intégrer des possibilités à minima d'accueil, d'écoute, d'orientation et au mieux d'accompagnement pour des personnes qui viennent leur poser des questions auxquelles ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés. Donc là, il y a vraiment un travail de formation, de formation informative de ces gens-là.
De la formation informative.
Oui, c'est pour dire qu'ils ne sont pas formateurs d'infirmières, mais ils proposent un contenu de formation à des personnes en formation d'infirmières.
Donc, qui s'adresse en fait à des publics qui peuvent être, à un moment ou à un autre, en contact avec des personnes qui ont des quêtes comme ça, transidentitaires, c'est ça?
Bah, ça veut dire n'importe quel travailleur social, quoi.
Ouais.
Après, il faut que les organismes de formation qui s'occupent pleinement de la formation en tant que telle intègrent un module de ce type et demandent cette prestation au geste, voilà.
C'est une spécificité, pardon, une spécificité, c'est pas facile à dire,
surtout
quand on n'est pas très en forme comme moi.
Ouais.
Comme mot, donc, c'est...
Spécifique.
Voilà, c'était le terme que je voulais utiliser.
À quoi, à donc quoi, c'est quoi la question?
Mais tant qu'on a dit le mot, il faut que tu précises.
Ça semble être...
Elle a créé sa structure, donc... J'imagine qu'elle est pionnière dans ce domaine-là. Est-ce que tu as...
Donc, à sa connaissance, il n'y avait pas d'autres structures existantes. Voilà. Il y avait quelqu'un qui était en freelance, en fait, qui était déjà dans les milieux de la formation, voilà, et qui proposait ça. Mais ce n'était pas organisé comme ça dans un petit cadre collectif. Voilà.
Et elle intervient localement ou est-ce que... Enfin, elle... Ils sont
donc,
il y a pas qu'elle, hein, ils sont trois, voilà.
Mais les trois sont pas dans les mêmes régions.
D'accord.
Donc il y a voilà. Mm-hmm. C'est pour ça j'en parlais précédemment. Il y a donc il y a pas longtemps le donc c'était la mairie de Toulouse qui a organisé une projection du documentaire.
Oui.
Qui était donc sur son parcours à elle, et ça allait avec la distribution, la remise d'un document pédagogique qui avait été fait en partenariat donc avec le GEST. Et donc voilà, ça c'était à Toulouse, donc tu vois, ça rayonne un peu. Et donc elle intervient sur les formations du planning familial localement. Et donc voilà, au niveau de... J'ai pas pu aller au séminaire, je suis un peu dégoûtée, puisque donc la petite réunion annuelle du GEST a eu lieu là, il y a pas très longtemps, mais j'étais occupée à autre chose, donc j'ai pas pu aller voir ça de plus près et me renseigner plus avant sur les activités exactement. Et voilà, donc une fois encore, je ne sais pas plus que toi qui as déjà écouté tous les sons que j'ai ramenés.
Donc
voilà.
Arrête de poser ce style de questions, Philippe.
C'est très embarrassant, c'est énervant.
Tu la mets dans l'embarras, on n'en apprend pas plus.
On va faire une pause musicale et on va la réconforter, Ariane.
Et on va te recadrer.
Merci.
Météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Contact. Contact. Ôtez-moi ma combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Contact. Contact. Comprenez-moi, il me faut à tout prix rejoindre mon amour dans la galaxie. Contact. 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 Contact.
Donc voilà, ça, Ariane, c'était pour t'expliquer pourquoi Brigitte était devenue ce qu'elle est devenue. C'est parce que sa transfusion de mercure n'a pas réussi et qu'elle est frustrée. Elle n'a jamais retrouvé son amour dans d'autres galaxies. Tu comprends pourquoi? C'était important.
Pourquoi
de
maintenant elle aime les phoques?
Voilà, pourquoi maintenant elle aime les phoques.
Mais est-ce que les phoques aiment Brigitte?
Ça reste à prouver. Donc, revenons-en plutôt à Camille, parce que c'est plus intéressant, même si...
Mais ça m'est tellement plus enfin, bref.
Agréable.
Voilà, merci. Un peu plus.
Donc, Camille, elle nous parle plus précisément du planning familial. Moi, je trouve ça. Enfin, j'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas. Et
mais tu n'es pas le seul à ignorer l'étendue des activités du planning familial.
Et c'est quand même très intéressant.
Le planning de l'Hérault, notamment, est en pointe sur plusieurs sujets. Toute une dynamique qui s'est montée il y a quelques années autour des mariages forcés, par exemple.
Ah oui, ça a été une grosse campagne au niveau national, avec un affichage, des petites cartes de partout. Ouais.
Ben oui, mais bon, parce qu'il y a des gens au planning à Montpellier qui ont pris les choses en main à un moment donné, qui ont dit, on peut plus accepter des choses pareilles, quoi. On est au XXIe siècle.
Bon.
Donc c'est les deux fers de lance, en fait, du planning de l'Hérault, c'est la transidentité et les mariages forcés. Donc aujourd'hui, au planning de l'Hérault, il y a des formations de conseillères conjugales et familiales, qui sont des formations de 400 heures, donc c'est pas rien du tout, quoi, hein, c'est quand même un bon morceau. Et il y a un module sur la transidentité, l'approche de genre. Voilà. Donc j'interviens systématiquement dans le cursus. Et c'est super.
Bah oui, je suis bien d'accord, j'allais le dire.
Et avec ça, on a organisé... Alors, il y avait une directrice au planning là, qui est partie l'an dernier, mais avec qui vraiment on a fait un super boulot. Elle a réussi à bouger le rectorat, par exemple, de manière à ce qu'on fasse des formations pour les infirmières scolaires, qu'au moins ces personnes sachent de quoi ils retournent. Mmh. C'est-à-dire que quand on accueille un petit garçon ou une petite fille dans le mal-être, avec le côté, je mets les guillemets, hein, qu'il faut efféminé ou garçon manqué, etc., systématiquement, l'éducateur le mieux, le plus ouvert, le plus sympathique, etc., le plus bienveillant, va dire « Oh là là, ce petit ou cette petite, c'est en train de devenir un homosexuel. » Non, pas forcément.
Si l'enfant n'est pas réassigné, à la limite, c'est pas grave, quoi, qu'il soit vu, qu'il soit perçu comme en dehors de la binarité. Mais moi, ce que je trouve hyper violent, c'est d'être réassigné à ce qui a été déclaré à la naissance et empêché de certains comportements, certaines activités, et donc par là même, dans son développement, d'aller vers des rôles et fonctions sociales stéréotypées, quoi. Et ça, c'est une violence faite aux individus. À tous les individus, ça ne concerne pas qu'une frange marginale d'une société, quoi.
C'est pour ça que quand on dit que la transidentité, ça concerne tout le monde, ça fait sursauter en général. Hein, mais dans notre acception du terme, oui, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que ça interroge effectivement le sexe, le genre et ce rapport malsain d'amalgame qu'on a fait entre... sexe et genre égale un certain nombre de comportements, d'attitudes, etc., qu'on attend du sexe défini à la naissance. Et ça concerne encore plus aujourd'hui, dans une époque de modernité technologique, que ça ne concernait il y a, bon, je ne saurais pas les dates, 20 ou 30 ans, parce qu'aujourd'hui, à partir du quatrième mois de la grossesse, eh ben, on va savoir déterminer le sexe de l'enfant et donc on va commencer à faire le travail intra-utéro. Et ça, c'est grandiose, quoi. L'enfant n'est pas encore né que déjà le travail d'assignation se fait.
Je suis trop d'accord. Je m'étais coupée, mais je le dis quand même.
Ah ben, moi, ça m'a fait remonter un vieux trauma de ma petite enfance, le jour où on m'a viré de la cour de récré où il y avait les maternelles de tous les sexes et les filles. Et à partir de la première classe de primaire, véritablement, le CP, en fait, les garçons passaient dans la cour d'à côté. Et moi, ça a été un traumatisme que de voir passer dans la cour de récré des garçons. Toi, pareil, hein ?
Moi, pareil.
Mais vous étiez où à l'école ? Elles étaient pas mixtes, les écoles, chez
non,
vous
moi,
c'est quoi ce bordel ?
C'était à la
si, elles
cantine.
Étaient mixtes, mais les cours de récré ne l'étaient pas.
Si, moi, les cours étaient... C'était à la cantine, en fait. C'était un vieux monsieur qui surveillait la cantine, mais un vieux monsieur des années 1820, tu vois. Et voilà. Et pour lui, c'était non mixte. Donc voilà, il avait séparé les cours. Et donc, il fallait trouver des stratagèmes pour aller jouer avec les filles.
Tu ne fais pas ton âge, Gislain.
Ouais, je sais. L'Oréal. Parce que je le vois bien.
Bon, il y a un autre témoignage qu'on va écouter que je trouve très émouvant. C'est Camille qui parle, on l'écoute.
Et je vois arriver un vieux monsieur, très comme il faut, qui m'annonce qu'il a 82 ans, je crois, et que, voilà, il vient de prendre conscience qu'en fait, il se sent femme au fond de lui ou d'elle, comme on voudra, que c'est des choses qui ont été vécues de manière fugace, fugitive dans sa vie, et qu'il a toujours verrouillé. Et puis là, voilà, j'ai 81 ans, 82 ans, et je ne veux pas partir en laissant derrière moi un aussi lourd secret que je me suis bloqué à l'intérieur de moi pendant tellement longtemps. Donc, évidemment qu'à mon âge, je ne vais pas forcément faire une transition avec des opérations, des hormonothérapies, etc. Mais je veux juste que les gens autour de moi sachent ce que moi j'ai vécu et comment je me vis aujourd'hui. C'est vachement courageux. C'est 82 ans, grand-père, arrière-grand-père, tu vois. Et que, bon, j'ai commencé, alors par mes petits-enfants, parce que c'est avec eux, je pense que ça va être le plus facile. Ma fille, il ne faut surtout pas que je lui dise maintenant. Voilà. Ça fait 5 ans que je suis cette personne, donc maintenant on a 86 ou 87. Et qui maintenant m'annonce, tu sais, j'ai pris rendez-vous avec le psychiatre parce que quand même, maintenant, je voudrais voir si ce serait pas possible de me faire opérer. T'imagines la pêche de cette personne, ouais. À 87 ans, après avoir accepté à un moment donné d'être qui elle était réellement, mais en disant, bon, ben voilà, c'est un peu tard, effectivement, pour entamer des mutations profondes, etc., qui commence à en parler autour d'elle, et puis qui, au bout du compte, se dit, bah, finalement, hein, avec les progrès de la médecine, pourquoi moi, j'y aurais pas droit aussi.
Bon. SLP, pouh, ça calme.
Ben voilà, ça calme.
Ouais,
tu vois, alors elle en tous, elle s'étouffe, elle est dans tous ses états.
Non, mais c'est vrai, c'est incroyable comme témoignage.
Mais en même temps, quelque part, c'est déprimant parce qu'il y a plein de gens qui n'auront pas le courage de cette personne-là. Et moi, je pense à ce qu'elle disait dans une autre émission.
Oui,
Camille,
lors de la première émission.
Mourir sans avoir vécu.
Ouais, c'est
ça. Tu vois, et je trouve que.
Le décalage qu'il peut y avoir entre la prise de conscience et puis en fait le. Finalement, le fait de passer à l'acte ou pas, d'opérer cette transformation, c'est déprimant. Oui, enfin, tout dépend comment on le regarde, puisque lui, à 82 ans, il prend conscience de ça et il décide de faire le chemin, enfin, en tous les cas, de le commencer.
Ce que je trouve, moi, déprimant, en tout cas, c'est l'enfermement et le fait d'être prisonnier. D'une société qui veut imposer des choses sans prendre en compte qui tu es, toi. Il y a quelque chose qui est totalement déprimant là-dedans, parce que tu as l'impression qu'il faut une énergie colossale pour pouvoir se détacher de ça et devenir toi-même, enfin, être toi-même, enfin. Et que, bah, y a des gens qui ont le courage de le faire, qui ont cette énergie-là, et puis il y en a d'autres qui l'ont pas, et c'est... Et moi, ça me déprime, quoi, que pour des choses aussi, j'allais dire banales, mais aussi basiques que être soi-même, la société nous l'interdise.
Mais c'est pour ça
tu
que
vois,
c'est pas si basique. Et du coup, je voudrais en profiter pour dire que ce témoignage-là, il vient donc d'une des activités de Camille, qui est de tenir les permanences pour les personnes qui sont en questionnement sur le genre auprès du planning familial. Et qu'il y a aussi donc une sorte de fil d'écoute, quoi. C'est possible, quoi, de contacter quelqu'un du geste par téléphone pour discuter. Voilà.
Dernier son pour cette émission. On parle cyborg, c'est ça?
Mais arrête, tu vends la chute. Oh là là.
Ben voilà, bon, ben super.
Vas-y, je me
t'es déprimant toi aussi.
La binarité en tant que telle, je m'en fous, c'est très pratique la binarité. S'il n'y avait pas de binarité, il n'y aurait pas d'informatique. Et l'informatique, je m'en sers tous les jours et je suis bien content de m'en servir. Donc c'est pas ça qui me gêne, c'est pas la binarité, c'est l'enfermement. L'enfermement mental lié à la binarité. Bien sûr qu'il y a une binarité, bien sûr qu'on peut naître avec un sexe mâle ou un sexe femelle, encore qu'on peut naître avec des tas de choses intermédiaires. Ça, on le sait moins, mais ce qu'on appelle les gens intersexes. Et dans
oui,
la
puis
nature,
on peut
on
avoir
ça,
un sexe gonadique différent du sexe chromosomique.
Voilà. C'est ce que j'appelle tous ces intermédiaires-là.
Ouais.
Mais si on cherche le plus grand nombre, on va dire que le plus grand nombre s'inscrit dans cette binarité-là. Et alors, c'est pas grave en tant que tel. c'est pas de ta faute si t'es né avec un sexe de femelle, et c'est pas de ma faute si je suis né avec un sexe de mâle. C'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est tout ce qu'on enferme autour de ça. Mon idée, mon envie, c'est que petit à petit, l'humanité, et ça prendra le temps que ça prendra, que petit à petit, l'humanité, elle aille vers cet avancement-là, de dire, mais on nous oblige à s'enfermer dans des trucs autour de cette réalité biologique, alors qu'il y a l'être humain, c'est bien autre chose qu'une réalité biologique aujourd'hui.
Avec ce que le binaire fait en informatique. Hein.
L'être humain, il est devenu éminemment culturel.
Et technologique.
Et donc, on a le droit, effectivement, depuis l'aube de l'humanité, de chercher à trouver des systèmes qui nous épargnent des obligations purement naturelles, des cycles naturels, des ceci, des cela. On a droit, au fur et à mesure qu'on a perdu nos poils, d'essayer de trouver quelque chose pour se protéger du chaud, que ce soit aller à un moment donné assassiner un animal pour se servir de sa peau qu'on trouvait bien sympa. C'est pas très sympa pour l'animal en question, mais à la limite, si c'est fait avec respect, en disant, bah, écoute, je suis désolé, mais moi, là, je suis plus malin que toi, et puis j'ai besoin de bouffer d'une part, et d'autre part, j'ai besoin de me couvrir parce que vraiment, je me pèle, donc je vais te piquer ta peau, et puis ta bidoche en même temps, et puis je vais apprendre aussi à faire du feu, et puis je vais développer des systèmes technologiques qui vont petit à petit m'affranchir de ces contraintes naturelles.
La émission.
Donc Ghislain le mâle et Ariane la femelle étaient en train d'échanger. J'ai pas entendu vos débats sur la fin de l'intervention de Camille.
On parlait poils.
C'est très intéressant.
Non, c'est pas exact. Mais
si, c'est ça. On disait que avant c'était la nature qui nous enlevait les poils, maintenant c'est les esthéticiennes. C'était ça le progrès.
C'est ça être cyborg.
Non, moi je disais du coup le progrès c'est l'exploitation. Alors youpi, mais c'est pas. Enfin bref. Et oui, nous sommes tous des cyborgs.
Mais ça, on le sait depuis que tu nous as parlé de, je me rappelle jamais...
Dana Haraway.
Oui, il y a quelques mois de ça. C'était ici, je m'en souviens très bien.
Oui, c'était ici.
Ici, c'est les studios de Saint-André de Radio Pays des Roues, il faut expliquer. Hein.
C'est ça. On se retrouve la semaine prochaine et on retrouve Camille aussi pour la dernière émission du mois de décembre. Et elle va nous parler plus spécifiquement de son engagement politique.
Enfin, on va lui faire parler parce qu'elle nous a parlé de tout ça. Maintenant, nous, on a fait notre tambouille pour que ce soit plus ou moins dans l'ordre. Voilà.
C'est en ça. Gros, on cause politique la semaine prochaine.
Voilà, mais plus... Alors, vraiment, pour le coup, engagement politique...
Vie de sa cité.
Exactement. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.